Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. On est là, on est bien, magnifique semaine qui s'annonce et qui démarre aujourd'hui. Et oui, avec une magnifique émission pendant 2 heures, on va se régaler, on va refaire le week-end de Ligue 1, mais surtout se projeter sur les demi-finales de Coupe d'Europe qui arrivent et qui commencent dès demain. Et oui, on est en direct du Parc des Princes demain soir, soyez bien au rendez-vous toute la semaine, c'est exceptionnel, mais demain encore plus exceptionnel parce qu'avec Jean-Louis Tour qui est là, on est au Parc des Princes. Salut Jean-Louis.
Salut Jérôme, salut tout le monde.
Ça va Jean-Louis?
On lance une grande semaine de Coupe d'Europe en français là. Là t'imagines
c'est...
Vendredi matin, on aura peut-être deux clubs français en finale de Coupe d'Europe.
Ça peut être historique. Comme en 2004.
Ce sera incroyable.
2004, deux finales. Finales.
Je me rappelle pas de cette année.
Ah bon? Bah, pourtant,
il y avait qui? Marseille, oui, c'est vrai.
C'était la seule qui était comme ça, où il y avait deux équipes en finale de Coupe d'Europe. On est avec Christophe Dugarry. Salut Christophe.
Salut les copains, bonsoir à tous.
Ça va, Dugas?
Ça va, super. Bon, super.
On est excité de cette semaine.
Oui, belle semaine, évidemment. Bah, oui. On attend ça toute l'année, on a parlé de foot.
C'est là maintenant.
Pour vivre des moments comme ça.
Exactement. Exactement, on est avec Eric Dimeco. Salut Eric.
Salut Jérôme, salut Jean-Louis, salut Dugas.
Oh là là, il a plus de voix, mais qu'est-ce qui se passe?
Il a chanté ou quoi?
Ah ben, non, mais j'ai. Alors j'ai crié jeudi soir au stade parce que j'ai commenté le match.
On a entendu. Ouais.
Et, depuis, j'ai eu un week-end animé et du coup, j'ai pas retrouvé ma voix.
Voilà, ah, d'accord.
Je suis désolé.
T'as trop vu quoi?
Non.
Ah non, ça n'a rien
chanté,
à voir.
Chanté, crié, voilà.
Mais non, on était à concert à Bourg-Saint-Andéol, les gars.
Donc, ah, bien sûr, on l'a vu, on a suivi ça.
Comment? Il y a punition comme ça, c'est terrible.
C'était magnifique, je les remercie d'ailleurs, c'est génial.
Ce soir,
à Bourg,
Roten sans flamme donc sur PSG Dortmund. Demain, demi-finale, retour de Ligue des Champions. Comprenez-vous le traitement de certains supporters envers Kylian Mbappé? Ou au contraire, manque-t-il de reconnaissance? Ce sera le débat tout à l'heure à 19h, lui qui fera sa dernière au Parc en Ligue des Champions. À 18h30, c'est Christophe Galtier qui sera l'accusé du soir. Accusé d'être une girouette, lui qui est sorti du silence samedi matin, avouant que refuser l'OM en octobre dernier, ça a été le moment le plus difficile de sa carrière. Gros débat tout à l'heure, 18h30. Le Casar enchaîné rendra hommage à 18h45 aux arbitres qui vivent des moments compliqués. Et puis attention, il ne reste plus que 2 chances d'être tiré au sort pour l'expérience RMC. Pour aller demain au Parc, assister à PSG Dortmund, les places s'arrachent à prix d'or. Clairement, on vous offre donc 2 places pour PSG Dortmund et en plus l'expérience RMC. C'est la visite des studios avant la rencontre, le débrief dans l'after. Soyez bien attentifs, à tout moment l'alerte sonore peut tomber. Et dès qu'elle tombe, vous avez 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16. Soyez bien attentifs, mais on lance le match de demain et cette fameuse méthode Coué.
J'aimerais savoir si vous connaissez la force de l'autopersuasion et de l'autosuggestion.
La course d'élan, Kylian Mbappé, la frappe,
oui,
et le but, et le but.
Je suis content, très content.
Dans notre vie, nous sommes décisionnaires de nos choix.
Ça revient les pieds de Mbappé, oui, et cette fois-ci, c'est oui, la bonne, c'est la bonne, oui, c'est la bonne. 4-1.
Savoir se suggérer des choses à nous-mêmes et de s'en persuader.
Moi, tu me parles pas d'âge.
Il faut y prêter assez attention, parce que quand on le fait, c'est souvent inconscient.
La Champions League, c'est un objectif, hein, c'est l'objectif clair, affiché, annoncé. C'est ça qu'on veut.
Et souvent, ce sont dans des pensées négatives.
Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Il faut arrêter d'avoir peur. On est bon.
Demain, c'est donc le grand soir pour le PSG. Un but à rattraper pour peut-être disputer la 2e finale de Ligue des Champions de l'histoire du club. Paris est-il désormais mieux armé mentalement? Appelez-nous au 32-16 pour débattre. Arthur Perrault nous rejoint, lui qui suit le PSG au quotidien. Salut Arthur.
Salut messieurs, bonsoir. Salut Arthur.
On pose cette question car, comme au tour précédent contre Barcelone, les Parisiens ont affiché leur confiance, leur sérénité, une sorte de méthode Coué pour se persuader qu'ils vont le faire.
Oui, depuis plusieurs jours au campus PSG à Poissy, l'entraîneur Luis Enrique tient le même discours aux supporters qui osent l'interpeller.
C'est la seule phrase que c'est en français. On va gagner.
On va gagner. C'est la seule phrase que je connais en français.
On va gagner, bien sûr.
Des mots bien loin de la pression des années précédentes, comme face à Barcelone en quart de finale. Les Parisiens sont sereins face à l'événement. Ils travaillent quotidiennement avec un psychologue du sport arrivé l'été dernier. Le capitaine Marquinhos est totalement apaisé.
On ne sait pas ce qui va se passer. Et la confiance, je crois, qui vient de travail, qui vient de la sérénité qu'on a travaillé pendant toute la saison. Je ne pense pas que toute cette confiance, c'est juste une question de le résultat. C'est plus une question de confiance dans la préparation, qu'on est sûr que les supporters ils vont faire, que toute une énergie sur le terrain, sur un stade, sur une ville. C'est pour ça que nous, on a cette confiance.
Autre élément pour aider les joueurs à se transcender, le Parc des Princes sera plein, 47 000 spectateurs. Le collectif Ultra Paris, principal groupe de supporters, appelle le public à ne faire qu'un seul corps, de quoi motiver le coach Luis Enrique.
On a la garantie absolue que les supporters seront avec nous, surtout quand ça va moins bien. On l'a vu à Dortmund, c'était magnifique. J'espère qu'on pourra célébrer le passage en finale.
Une sérénité partagée aussi par le président Nasser Al-Khelaifi, présent ce matin à l'entraînement. Son calme n'empêche pas d'avoir conscience de l'enjeu. Le dirigeant confie qu'il s'agit du match le plus important depuis que les Qataris sont à Paris.
Merci Arthur. Jérôme, oui. Est-ce que selon toi, le PSG est mieux armé mentalement désormais pour affronter ces grands événements ?
Je ne sais pas s'il est mieux armé. En tout cas, pour répondre à ta question, et j'ai écouté les discours, et c'est bien que tout le monde fasse corps ensemble et de croire à une éventuelle qualification finale de Ligue des Champions. Ils ont raison, il n'y a qu'un but de retard, de toute façon. Et sur un match retour, il peut se passer beaucoup de choses, surtout quand tu as la chance de recevoir, se servir de l'atmosphère, se servir de tout ça. Mais dire on va gagner, ça reste un match de football, t'es pas sûr de le gagner, donc moi j'aime pas les discours.
Mbappé a dit à peu près la même chose aussi
dans un événement. Mais après, s'ils sont persuadés et s'ils veulent se persuader à travers ce genre de discours que ils vont se qualifier et ils vont gagner le match, il y a pas de souci, ils ont le droit de le faire. Moi, c'est pas la méthode que j'aurais employée.
T'aimes pas qu'on annonce comme ça ?
Non, parce que en fait, tout simplement, Jean-Louis, c'est parce que je suis superstitieux. J'ai toujours été tout au long de ma carrière et que on m'a transmis ça. Les entraîneurs que j'ai eus dès le plus jeune âge, quand il y a des matchs importants à gagner, des fois, vaut mieux rien dire. Déjà pour éviter d'exciter l'adversaire et puis de garder tes forces, ton énergie, plutôt de communiquer de cette façon-là. Après, je vais pas en vouloir, Luis Enrique, à Kylian Mbappé ou aux autres, de penser qu'ils vont se qualifier. Moi, je le souhaite.
Bah, il m'a dit plus qu'ils y croient pas.
Mais c'est vrai qu'il Eric, moi l'annoncer, je ne fais pas partie de ceux qui ont besoin de se persuader, si tu veux, en annonçant des choses. Dire qu'il y ait des actes sur le terrain, où je te dis que mentalement, tu le dis pour répondre à ta question, oui. Jean-Louis, est-ce qu'ils ont progressé psychologiquement, est-ce qu'ils ont progressé, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que sur l'année, il y a eu des piqûres de rappel. Il y a eu des matchs où ils n'ont pas été à la hauteur. Oui. Est-ce que c'est un problème mental ? Est-ce que c'est un problème physique ? Est-ce que c'est un problème tactique ? Je ne sais pas, c'est un ensemble de choses. Mais il y a eu des moments où ils ont été moins bien quand même. L'année, elle n'a pas été linéaire. Ils n'ont pas été au top.
Il y a eu 4 défaites en Ligue des Champions,
oui,
déjà, c'est
puis,
beaucoup.
Et puis la dernière en date, du moins la dernière, on l'a débriefé avec Duga la semaine dernière, cette défaite à Dortmund. Mais il y a eu des manques. Il y a eu des manques dans l'investissement. Alors, est-ce que c'est dû au mental ? Comment on l'approche ? Parce que moi, je veux bien la psychologie du sport, appeler des entrées, du moins des psys pour arrêter vos bêtises.
C'est le terrain, c'est les résultats.
On est formé à 13 ans, à 12 ans et tout ça. On te met dans la tête, on est dans une bulle. Et aujourd'hui, tu crois que les mecs qui ont beaucoup d'expérience ont besoin d'avoir un psychologue du sport pour dire attention, l'appréhension du match, comment tu dois la gérer et tout ça. Il y a une pression qui est énorme. À toi de la gérer, à toi de trouver les solutions.
Ok. Duga, tu penses qu'il y a un fantasme autour de ça, du mental, de l'aspect psychologique, ou est-ce qu'au contraire, tu trouves qu'il y a un vrai changement chez les Parisiens ?
Non, un vrai changement, non. Non, on peut pas constater ça comme ça. Après, je trouve que le vrai changement, il est depuis le début de la saison. C'est-à-dire que depuis le début de la saison, joueurs, entraîneurs comme dirigeants ont tout fait pour faire tomber la pression en disant c'est une année de transition, cette année on n'a pas d'objectif, cette année on joue rien. Elle vient de là la confiance, sincèrement. T'as presque l'impression que le club joue rien ou pas grand chose ou c'est pas grave, tu vois. C'est comme Luis Enrique, il te dit bon, mais si on gagne pas, mais le soleil se lèvera demain. Bien évidemment. Donc je pense qu'ils se sont surtout enlevés de la pression. Ils sont confiants parce que tu joues quand même que Dortmund. faut quand même pas oublier, si t'avais dit en début de saison tu vas jouer Dortmund en demi-finale après le match aller, donc voilà, tu perds qu'un zéro, tu t'es créé des situations en étant quand même assez moyen au match aller, donc je trouve que c'est normal que la confiance les habite. Ils joueraient un adversaire un peu plus huppé, ça serait à mon avis un poil différent, mais là ils ont désamorcé depuis le début de la saison, chacun a désamorcé la situation à son tour, chacun dans son rôle a désamorcé la situation, donc voilà. Mais attention, retour de bâton, parce que là, tu te retrouves à perdre.
Du gars, tu peux la désamorcer, mais n'empêche que...
Elle peut te rattraper aussi,
excuse-moi,
après.
Excuse-moi, demi-finale de Ligue des Champions, si elle t'attrape pas la pression, tu l'auras jamais.
C'est pour ça qu'il y a deux solutions face à la pression. Il y a là, par exemple, on parlait tout à l'heure d'Eric qui donne des concerts, avant de monter sur scène ou avant de rentrer sur un terrain. Il y a la pression, soit elle est positive, soit elle est négative. Il y en a pour qui ça sert, il y en a pour qui ça sert pas. Donc, qu'est-ce que t'en fais après de cet événement? Comment tu le vis, comment tu le gères, comment tu le ressens? Bon. Chacun le vit à sa manière, mais quoi qu'il se passe, et ça c'est la réalité, et est-ce que c'est dans la tête ou pas, les manques du Paris Saint-Germain, est-ce qu'ils sont physiques? Est-ce qu'ils sont tactiques parce que parfois Luis Enrique a tenté des choses que les joueurs n'ont pas compris? Ou est-ce que c'est mental avec des joueurs qui ne sont pas capables sur certains matchs de répondre à l'intensité et aux défis physiques?
Et pourquoi les trois possibilités existent?
On n'a pas eu de réponse. On a eu des matchs super, on en a eu des moins bons, on en a eu des très moyens, on a eu des moments où ils sont passés totalement à travers. Tout n'est pas explicable, été expliqué non plus par l'entraîneur. Il n'y a pas d'équipe type, il y a des joueurs qu'on est en deux jeux. Ont eu plus de temps de jeu que d'autres, mais globalement tout le monde a eu du temps de jeu. Voilà, moi j'ai toujours une inquiétude, par exemple sur l'arrière gauche là, Nuno Mendes. Écoute, Nuno Mendes, il a failli te bouffer la qualification à Barcelone et face à Dortmund il a été catastrophique. Est-ce que tu le fais jouer là une nouvelle fois au poste d'arrière gauche? Il y a des manques dans cette équipe.
Il n'est plus là, ça règle.
Puis à la maison, il doit attaquer un peu plus. Il a des qualités offensives, quoi. Son problème, il est défensif, Nuno Mendes. Par contre, je ne sais pas si, quand vous avez débriefé le match, vous avez évoqué cette stat-là que j'ai vu circuler, parce que je sais que dans l'after, ils en ont parlé, où tu cours 8 kilomètres de moins, collectivement, vous en avez parlé.
Est-ce que c'est mental?
Alors, parce que moi, je veux bien, quand tu joues contre l'équipe qui a la possession, qui te met dans tes 18 mètres, tu cours moins. Ça, c'est normal, c'est mécanique. Mais là, c'est pas le cas. Plus, il y a eu le ballon à un moment donné. Exactement. Donc, ça veut dire qu'il y a un manque à ce niveau-là.
C'est comme s'ils avaient joué avec un joueur de plus.
C'est ça. C'est-à-dire que les mecs, avec les courses qu'ils font, ils ont un mec de plus sur le terrain. Donc, et ça, c'est quand même assez récurrent au PSG depuis des années même, puisque je me souviens que il y avait ce débat-là, Jérôme, même toi quand tu travaillais dans l'after, vous en parliez déjà à l'époque. Donc ça, c'est déjà un manque. Après, il y a le côté mental. Donc le côté mental, on nous a promis en début de saison, et ça a pu se vérifier peut-être, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la cohésion, au niveau du sacrifice que les mecs feraient les uns pour les autres, que ce serait une vraie équipe et tout. Et ça a l'air d'être vrai, puisque j'ai l'impression que il y a pas trop de problèmes et qu'ils s'entendent bien. Sauf que le côté mental, c'est pas que ça. Et moi, je vois pas beaucoup. Enfin, quand je vois le match à Dortmund, Jérôme, moi, je parle sous ton contrôle, tu es quand même le notre expert en match du PSG, entre guillemets. J'ai l'impression d'avoir vu un match que j'ai beaucoup vu cette année. Finalement, beaucoup plus que ce qu'on nous disait. Parce que des grands matchs où tu maîtrises mentalement le sujet, voire physiquement le sujet, il y en a pas eu tant que ça, si cette année. C'est le match retour contre le Barça, on enlève la physionomie du match et le scénario qui fait que, à un moment donné, tu as une supériorité numérique. Mais le match au Barça, c'est presque, one shot dans la saison. En poule, je parle en Coupe d'Europe, hein, les gars, ne me faites pas parler du championnat, hein. En poule, ça a été compliqué. La Real Sociedad au Parc, si je me souviens bien, c'est compliqué pendant un long moment. Contre une équipe à qui il manquait beaucoup de titulaires. Hein, je dis une bêtise ou non?
C'est vrai.
Mbappé qui te délivre la situation par une espèce de ciseau de taekwondo, là.
Eric, pour résumer, on a dit toute la saison, les planètes sont alignées pour le PSG. Ça veut dire ce que ça veut dire.
Voilà, ça veut dire, voilà. Ne serait-ce que ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Après, mentalement. Moi, je pense que ça va passer parce que je les vois pas. Dortmund, il m'impressionne pas, quoi. Je pense qu'ils peuvent se liquéfier. Parce que le problème mental du PSG. Moi, je veux bien qu'on parle du problème mental du PSG, mais il va y avoir le problème mental de Dortmund quand même. Alors après, moi, je connais pas les stats parce qu'elles ont changé depuis qu'il y a eu il y a plus le but à l'extérieur qui compte double là en cas d'égalité. Jean-Louis, tu vas nous les donner. Mais normalement, tu perds 1-0 à l'extérieur, tu as un ballotage favorable quand même, non?
Non.
Aujourd'hui, dans le foot, non?
Non.
Ah d'accord.
Aujourd'hui, il y a trop peu de
de matchs pour se baser sur des vrais stats. En fait.
Ah, d'accord, ils ont repris les trucs à zéro.
On n'est pas à 50-50, mais presque.
Alors, voyons ce qu'en pense Fred, qui nous rejoint au 32-16, supporter du PSG.
Salut, Fred. Je pense que c'est plutôt Dortmund qui va avoir du mal mentalement.
Salut, les gars, j'espère que vous allez bien.
Ça va, ça va, Fred. Tu nous appelles d'où?
Je vous appelle, ben là je suis en plein dans ma voiture, je suis dans le 78, d'accord. Je suis à côté de Poissy, vous savez quoi, ah. Je vais même passer devant le campus pour vous dire.
D'accord.
Bon. Bah, klaxonne, klaxonne.
Klaxonne. Des infos à récupérer. Ah, il klaxonne.
Ah, il a klaxonné. Ah, bah, oui.
Vas-y, klaxonnez, ouais, je suis passé devant, j'espère que vous allez bien, je suis content de parler avec vous, en tout cas je vous écoute tous les soirs.
Ah, écoute, c'est sympa, le c'est sympa. Possible. C'est sympa Fred, est-ce que t'es confiant toi sur le match de demain?
Moi je vais vous dire la vérité les gars, franchement le PSG, autant ils m'ont énervé cette année. Parce que moi, je trouve que dans le jeu, parfois, il y a trop de relâchement, et ça depuis trop d'années. Mais autant là, je trouve que tout est aligné pour que ça passe cette année. Mais vraiment, moi, je pense qu'avec tout ce que le PSG a vécu, je pense qu'ils ont vécu toutes les plus grosses déculottées même de l'histoire du foot, là. Parce que maintenant, quand une équipe gagne 3-0, bah, à cause du PSG, on sait que cette équipe, elle est capable de se faire remonter. On sait qu'elle est capable de se faire remonter. Mais moi, je pense que vraiment, cette année, tout est au vert. Maintenant, voilà, va quand même falloir faire attention à certains aux latéraux de Dortmund qui sont excellents, à Sancho. Est-ce que Nuno Gomes va jouer demain?
Non, attendez, Nuno Gomes, il était attaquant du Portugal dans les années 2000. Donc, et toi, Fred, et Nugal, laissez-le tranquille.
Nuno Mendes, c'est mieux. Voilà.
Ouais, c'est Nuno Mendes, hein.
Ouais, Nuno Mendes,
ah, bon. C'est ce que j'ai dit. Pardon. Ça. Mais est-ce qu'il va jouer demain, ça, on sait pas, c'est la grosse question. Parce que moi, c'est vraiment Sancho qui me fait vraiment peur sur le côté. Parce qu'il a été excellent au match aller. Et moi, vraiment, demain, je vois le PSG passer. En plus, au parc, je pense que cette année, le PSG sera intouchable au parc. Et il l'a montré à plusieurs reprises. Je pense que demain, je pense que ça va passer.
Non, mais c'est des matchs de toute façon, Fred, qui servent à augmenter ton niveau technique, physique. C'est pas possible de revoir, et c'est pour ça que c'est la réponse. On l'a eu sur le match aller, Jean-Louis. Mentalement, tout n'est pas réglé parce que le match aller, sinon tu n'aurais pas eu un déficit comme ça de courage, d'entraide. De don de soi, parce que je suis désolé, il y a trop d'écart avec ce qu'a pu mettre Dortmund en place. Alors oui, ça se reflète pas sur les occasions, on est d'accord, même sur le score. Ok, on l'a pas trop vu parce qu'à l'arrivée le PSG aurait pu marquer en deuxième mi-temps, ils ont eu des occasions, ils auraient pu en prendre aussi, mais si tu refais le même genre de match où t'as la sensation que les joueurs ne se surpassent pas, tu ne passeras pas. C'est tout. Et ça, l'atmosphère, il est hyper important. On est quand même en demi-finale retour d'une Ligue des Champions. C'est pas tous les ans que tu t'offres des demi-finales retour chez toi, où t'as un score à remonter. Tu dois avoir beaucoup plus d'entraide, beaucoup plus de courses. La sensation, tu sais, Fred, quand tu es l'auditeur, là, tu nous parles de Nuno Mendes. Je veux bien, Nuno Mendes, il a été catastrophique à Barcelone, il a été catastrophique à Dortmund, ça n'a pas été le seul.
Non, mais là, sur le match retour, il ne peut pas se permettre d'être catastrophique.
Tu me parles de Sancho, mais Nuno Mendes, avec toutes les lacunes qu'il peut avoir défensives, mais il doit lui bouffer les chevilles à Sancho.
Ouais, mais après.
Demain, c'est clair que demain, c'est vraiment le match où on va pardonner aucun joueur.
Ben voilà.
Demain, c'est le match de leur vie. Ils doivent mourir sur le terrain.
Il suffit pas de dire il faut.
Hein. Oui, oui.
Barcelone, c'était pareil. Il fallait pas qu'il se trouve. Et puis,
Mais par contre, on parle de Paris, mais le débat doit être fait et le même que ça aujourd'hui pour Dortmund. Moi, je suis désolé. Mais tu joues contre eux. Oh, dis-moi, mentalement, c'est un combat mental, un match de foot. Moi, je suis pas sûr.
Comme le PSG,
mettre le feu facilement, Eric.
Parce que Sancho, quand même, vous connaissez ce style. Et pareil pour Adeyemi de l'autre côté, hein. C'est des joueurs qui peuvent disparaître d'un match, complètement aussi, hein. Attention, c'est-à-dire que, quelle assurance tu as sur cette équipe de Dortmund de relever le défi d'une demi-finale de Ligue des Champions à l'extérieur quand tu as gagné que 1-0.
Mais Eric, qu'ils soient pas au rendez-vous demain, eux, on en a rien à faire. Tant mieux pour le PSG.
Mais ça va jouer dans le résultat. C'est quand même un combat entre guillemets technique, tactique et mental. Si tu gagnes le combat mental, tu peux le gagner parce que tu es plus fort mentalement, mais tu peux le gagner aussi parce que l'autre en face s'écroule mentalement, ou qu'ils ont pas ce mental-là, ou qu'ils ont des joueurs qui ont pas le mental. Sancho, regarde le début de match qu'il fait la dernière fois. Il est capable de passer à côté de match complètement ce garçon.
Oui, oui, c'est vrai. C'est
vous
vrai.
Le connaissez
après,
quand même.
Après, non, mais après, est-ce que le Paris Saint-Germain est capable de courir? C'est aussi ça la question.
Voilà, moi, parce
que
c'est ça, sont... Mais moi, c'est voilà, pas c'est... le mental qui m'inquiète plus pour Paris. Ouais, sur aussi, la confrontation avec...
Il joue à 12 contre 11, ça va compliquer le match.
Exactement, moi, c'est pas dans le duel entre les deux équipes, c'est pas le mental, non, mais... parce que moi, je pense que Paris peut gagner ce duel-là, mental. Ils l'ont déjà fait, rappelle-toi.
Ils ont des meilleurs joueurs, Paris. Ils ont des meilleurs joueurs, il n'y a rien à dire là-dessus.
Mais après, c'est la faculté à monter le niveau physique, et impact, course, tout ce que tu veux dans le football moderne. Est-ce qu'ils ont ce mental-là? C'est-à-dire, est-ce que tu es capable de passer en 6 jours de 5 km de course mais à 110? Est-ce que tu es capable?
Ils l'ont fait sur le match retour à Barcelone. D'accord. Alors que sur le match aller contre Barcelone, tu le vois, alors ils avaient couru un peu plus que ce qu'ils ont fait à Dortmund, mais pas énorme. Ils se sont forcés, et c'est vrai, et ça s'est vu à travers le match. Alors peut-être l'effet de jeu ont fait que à 10, t'as l'impression qu'il y a une supériorité du Paris Saint-Germain là-bas à Barcelone, mais peu importe, ils l'ont fait. Donc le manque.
Sur les matchs d'avant, tu te souviens, non?
Sur les matchs d'avant, non.
Les stades de course.
Non, mais je vais te dire, non, Eric, mais des fois, la tu première sais, mi-temps contre la Real Sociedad, rappelle-toi ce qui s'était passé sur la première mi-temps, et ce n'était que la Real Sociedad, j'ai l'impression qu'en termes de course, de duel gagné, ils étaient dépassés le PSG. Alors, donc là, demain...
Parce que des fois, on parle beaucoup de possession, de mental, de tout, et la faculté à répéter les courses de haut niveau, de haute intensité à ce niveau-là, c'est quand même presque primordial. Alors,
tout à l'heure, à 19h, on parlera justement du message envoyé par Luis Enrique, vous pourrez l'écouter, notamment pour ses attaquants, pour qu'ils défendent. Fred, merci d'être venu au 32-16.
Merci Fred, à bientôt. Et bon match demain.
Arthur, est-ce qu'il y a des trucs prévus au niveau des supporters? Est-ce qu'il y a déjà des choses qu'on peut dire?
Oui, avec un groupe qui s'est créé de supporters qui prévoit d'accueillir le bus pour son trajet demain jusqu'au Parc des Princes. Ça devrait être autour du boulevard d'Auteuil puisque les joueurs prendront la 14 depuis Poissy au départ vers 18h30. Et puis évidemment un tifo exceptionnel préparé par le collectif Ultra Paris qui a d'ailleurs publié un communiqué pour lancer un peu un appel à l'Union Sacrée de tous les supporters pour cette rencontre. Tifo exceptionnel préparé depuis maintenant 3 semaines.
Exactement. Merci, et là je confirme ce que tu dis parce que moi j'en ai croisé quelques-uns. Ouais. Ils sont en train de préparer quelque chose.
Permanence tous les jours de 14h jusqu'à 1h du matin.
De fond grandiose. Ouais. Et ben rendez-vous demain, on sera là pour le décrire puisque c'est une journée spéciale.
C'est maintenant.
Je reviens. Journée spéciale demain sur RMC. De 18h à minuit et demi, on sera en direct du parc. Wow. L'avant-match en Rotten sans flamme, le match en intégralité, l'after. Et on est à l'antenne même jusqu'à 1h30. Mais ça, c'est l'alerte, effectivement. Donc c'est le moment. Si vous voulez être avec nous, demain, au parc, c'est le moment d'envoyer PSG au 732-16. PSG par SMS au 732-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire et vous gagnerez peut-être donc 2 places pour PSG Dortmund demain, plus la visite des studios à RMC, la rencontre avec les équipes et le débrief du match que vous pourrez faire dans l'after ou dans la libre antenne. Dans une seconde, Christophe Galtier est sorti du silence. Est-il une girouette? Il va être accusé de cela dans une seconde. À tout de suite.
Bonjour, c'est le traiteur. Alors pour votre cérémonie demain, je peux pas. J'ai grand frère. Ils ont de savoureuses myrtilles bien parfumées.
18h26 sur RMC, on est là, on est bien dans Rotten sans flamme. La deuxième demi-heure, elle commence maintenant de Rotten sans flamme avec Christophe Dugarry, avec Eric Dimeco et avec Jean-Louis Tour. Et si vous voulez vous détendre, à 18h45, il y aura le moment de Julien Cazard avec son Cazard enchaîné. On va se régaler. On va se régaler tout au long de l'émission.
Il va parler des arbitres, tes amis, Julien, tout à l'heure.
Tiens, un petit aparté, les arbitres, très performants ce week-end. Une honte encore. Une honte.
C'est infernal.
Ah ouais, une honte.
Tu penses quoi, au rouge pour Mikotadze?
L'arbitre, non, l'ensemble.
L'arbitre a reconnu son erreur.
Il a demandé. Non, mais tiens,
encore heureux. Non, mais il manquerait plus que ça. Mais l'ensemble de son match, hein, parce qu'il était catastrophique. Et on en parle de celui qui était suspendu, que monsieur Borghini nous avait dit oui, il sera suspendu, monsieur l'arbitre de Marseille Nice, de Chépy.
Non.
C'était pas lui de Chépy.
C'était suspendu.
C'était. Voilà, il était sur Lens. Lens-Lorient. Les Lorientais vont être très contents si le but refusé, là, injustement.
Bon, bref, c'était la sortie du lundi sur l'arbitrage.
Qu'est-ce qu'ils sont mauvais.
Mais là, on ouvre le dossier. Enfin, on ouvre de nouveau le dossier Christophe Galtier qui est sorti du silence.
RMC, Rotten sans flamme.
C'est faux. Tu dis non, mais c'est moi faux. Je dis oui. Ah, ben c'est qui a raison.
Faites entrer l'accusé.
Alors, l'ancien entraîneur du PSG, Christophe Galtier, la saison dernière, s'est donc livré ce samedi matin dans l'équipe. Pour la première fois, il revient en longueur sur sa relaxe quant aux accusations de harcèlement et de discrimination qu'il a eu lors de sa saison à Nice. J'ai été victime d'une infamie, dit-il, d'une vengeance personnelle, donc il s'explique en longueur. Il évoque également sa saison donc à Paris, ses regrets, sa façon de gérer les stars. Mais le plus gros regret de ces derniers temps a donc eu lieu en octobre, lorsque l'OM l'a contacté pour remplacer Marcelino. Vous rigolez déjà, monsieur le procureur, c'est incroyable. Ça a été le moment le plus difficile de ma carrière, dit Christophe Galtier. Le timing n'était pas bon. Au fond de moi, je n'avais pas le droit d'associer le club à mon rendez-vous au tribunal. Les gens doivent avoir en tête que ce nom est une marque de respect envers le club et envers Pablo Longoria. Bon, maintenant qu'il est blanchi de tout soupçon, on peut imaginer que la possibilité pourra se reproduire ou l'opportunité pourrait revenir. Pourquoi pas cet été, sachant qu'il faudra peut-être remplacer Jean-Louis Gasset. Galtier, par ses déclarations, est donc accusé d'être une girouette. Et l'accusation, violente, hein, est portée par le procureur Jérôme Rotten. Bonsoir.
Bonsoir.
L'avocat de Christophe Galtier, alors c'est son avocat historique, ouais, hein, on le connaît bien, en fait, d'entrée l'accusé, c'est Maître Éric Dimeco. Bonsoir.
Ah non, non, avocat.
Avocat ami, t'es payé.
Avocat jusqu'à la mort. Ouais,
voilà, bah voilà. Oui, c'est pour ça.
Il n'a jamais changé d'avocat, Christophe Galtier, c'est important de le noter. Et le juge qui va trancher, c'est le juge Dugarry. Bonsoir, monsieur le juge.
Bonsoir. Bonsoir à tous. Juge impartial, bien évidemment.
Oui, aussi,
toujours.
Alors, monsieur le procureur, pourquoi Christophe Galtier est une girouette?
En fait, son interview, outre le passage sur les accusations, en effet, son jugement, et là, j'ai pas à rentrer de ce côté-là, et je dis pas que c'est une girouette par rapport à ça, parce qu'il en a beaucoup souffert, et j'imagine qu'il a beaucoup souffert de ça, lui et sa famille et ses amis, donc il le dit, donc aucunement, je veux remettre en doute ce qu'il a dit là-dessus. Par contre, sur le sportif, oui, je suis désolé, mais Galtier, Galette, comme certains l'appellent, tu déconnes, parce que quand tu es arrivé au Paris Saint-Germain, on sait très bien ce que tu as pu dire aux supporters du Paris Saint-Germain, aux dirigeants du Paris Saint-Germain, aux joueurs du Paris Saint-Germain, comme quoi il n'y avait que Paris qui était dans sa tête, qu'il n'y avait aucun autre club, qu'en étant Marseillais, s'il y en a bien un qui n'est pas plus amoureux que ça de l'Olympique de Marseille, c'est lui. Je raconte pas de bêtises, monsieur Dimeco, parce que c'est la réalité, d'accord. Donc c'est la réalité, et c'est ce qu'il m'a dit aussi. Donc moi je vous le dis. Donc moi je suis quelqu'un de droit. Alors je dis des conneries par moment, en effet, mais je suis assez sincère. Et moi j'aime pas qu'on joue avec la sincérité des gens. Voilà, tout simplement parce que tu veux t'acheter une conduite, tu veux t'acheter un comportement quand tu es entraîneur du Paris Saint-Germain, il y a pas de problème. Mais par contre, ne fais pas machine arrière aujourd'hui. Nous expliquer que ça a été une erreur, du moins c'était le regret de sa vie de pas signé à Marseille par rapport au contexte au mois d'octobre, dire ça va quoi, tu l'avais pas dans ta tête l'Olympique de Marseille, ce que tu nous as dit, ou sinon tu nous as menti, et ça je déteste. Et c'est pour ça, en effet, que quand tu mens aux gens, et ben automatiquement le mariage à Paris pouvait pas bien se faire, et ça s'est pas bien fait. Alors après il peut m'expliquer toutes les circonstances atténuantes, la saison de Coupe du Monde, les égos dans le vestiaire, lui en fait quand tu l'écoutes, il a pas fauté. En fait, il a fait une saison incroyable, alors que tout le monde était unanime ici à Paris, et les gens qui aiment le Paris Saint-Germain, unanime pour dire que l'image du club était déplorable. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ils ont pris un vrai virage, avec un autre entraîneur, avec d'autres joueurs et tout ça. Bon, et ben lui nous explique que non, c'était fantastique, et que bah là, il y a eu des blessures, il y a eu ceci, il y a eu cela.
La Coupe du Monde aussi.
Il y a eu la Coupe. Oui. De toute façon, la Coupe du Monde, c'est vrai que ça a impacté que le Paris Saint-Germain. Je savais pas que ça avait pas impacté les autres clubs.
Contre Monsieur Latour là, mais vous pouvez pas recadrer les débats là. Mais, c'était pas mais, sur la girouette.
Mais ce que je veux,
il règle ses comptes du PSG.
Non, je règle rien du tout. Je règle juste le fait que
il est. Tu nous parles du PSG.
Oui, parce que c'est un ensemble de choses qui montrent que d'accord. Pourquoi le mariage s'est pas bien fait. Pourquoi le mariage s'est pas bien fait avec le Paris Saint-Germain, c'est parce que en effet tu étais une girouette, voilà. Parce que tu nous as annoncé des choses ici à Paris en étant Marseillais, comme quoi Marseille ceci et Marseille non et Marseille nana et Paris oui et Paris oui, et aujourd'hui limite à l'inverse, tu te dis le seul regret que j'ai pour l'instant, mais ça va se corriger bien sûr, parce que je vais signer à l'Olympique de Marseille et puis je serai fier
d'être. Un message, t'as pas pu être possible en octobre, mais là c'est bon.
Et on peut mettre un peu de passion, un peu de cœur dans notre football et être sincère, c'est bon. Tout. Moi je demande de la sincérité. Okay. Et quand tu ne l'es pas, et ben moi je suis désolé, j'ai mon rôle aujourd'hui où j'ai kiffé d'être joueur de football. Mm-hmm. Vraiment, j'en ai fait une grande partie de ma vie. Oui. Voilà, on a eu de la chance. On est des privilégiés là-dessus. Et on m'a toujours dit, oui, mais de ce milieu-là, il faut pas dire les choses. Il faut pas dire, ah, non, ceci. Des personnages comme Christophe Galtier, malheureusement, dans le football, il y en a énormément. Il y en a beaucoup trop. Mais moi, je fais pas partie de cela. Et aujourd'hui, je suis plus dans la sphère du football. Je suis en dehors. Donc, j'ai le droit de le dire.
Tout à fait. Alors, Maître Dimeco.
Alors, deux choses déjà sur le propos de Maître Roten, du coup. Donc, le procès était fait pour régler ses comptes sur ce qu'il avait dit quand il était au PSG. C'est-à-dire, c'est pas sur le procès du jour, puisque là, le procès du jour, c'est par rapport à l'article où il a dit à l'OM que il ne pouvait pas venir. C'était ça, pourtant, le procès. Oui, non, mais c'était ça, le procès.
Il dit que c'est le plus grand regret de sa vie de ne pas venir à Marseille, alors que quand il était à Paris,
il parlait pas spécialement bien de l'OM.
Sauf que, et là, c'est même du pénal, c'est même dans la loi. On n'accuse pas quelqu'un, sa preuve comme ça. Depuis quand on accuse quelqu'un, sa preuve comme ça? De dire qu'il a dit qu'il irait jamais à l'OM et qu'il aimait pas l'OM et qu'il y avait que Paris dans son cœur.
Ben, c'est moi qui
mais comment, comment? Mais oui, mais non, mais c'est pas,
c'est quoi,
toi, toi, tu es le Seigneur, toi, tu es Dieu.
Ah ouais, mais moi, je suis un menteur. Non, mais c'est pas un menteur.
Je peux douter, ah ben, je peux douter de ce que tu as dit. Parce que ce que tu as dit, ce que tu as dit est très grave quand même. Tu t'en rends pas compte. Moi, je veux bien faire des débats sur le foot, le 4-4-2, le 4-5-2. Mm. Il a bien joué, il a pas bien joué. Il court assez, il court pas assez. Il devrait jouer avant-centre, il devrait jouer les gauches. Moi, je veux bien faire les débats comme ça. C'est pas grave le football. Mais là, c'est grave ce que tu viens de dire, Jérôme.
Bah,
c'est un peu comme ceux qui ont accusé Christophe d'être raciste, ce que tu as dit. Parce qu'en disant ce que tu viens de dire là, ça veut dire et sans preuve, hein, encore une fois sans preuve, tu n'as pas de preuve.
Il l'a fait à moi et à d'autres, ça veut dire qu'en disant ce que tu as dit,
ça veut dire qu'il a trompé les Parisiens.
Mais s'il va à Marseille, il
a trompé aussi les Marseillais. C'est-à-dire que là, en faisant ce que tu fais, ça veut dire qu'il ne peut plus aller à l'OM.
Parce qu'il a trompé les Parisiens. Il peut y aller à l'OM. Il n'y a pas de problème.
Tu peux aussi prendre le parti. Non, mais là, par contre, il faut me laisser parler. À un moment donné, je t'ai laissé, moi. Déblatérer tes saucissons.
Non, mais il n'y a pas de saucissonnade.
Donc, je veux parler. À un moment donné, sans que tu me coupes. Parce que si chaque fois que moi je te laisse parler, que toi tu me coupes tout le temps parce que ça ne te convient pas, on ne va pas y arriver. OK? Parce que moi aussi, je peux te couper pendant les 3 minutes que tu fais. Et du coup, tes propos, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de complément. Vas-y. Moi, je t'ai respecté. Donc, je te demande de respecter mon avis.
Donc,
il n'empêche que, parce que toi, tu prends le parti qu'il a trompé Paris. Il peut ne pas avoir trompé Paris, c'est-à-dire d'avoir été franc. Et puis, en plus, il n'y a pas à tromper, pas tromper. Tous les entraîneurs, vont faire leur métier, dans des clubs qui les contactent. Et des fois, ces clubs-là sont pas leur club de cœur. Il y en a plein d'exemples dans le football aujourd'hui. Il a juste fait son métier. Donc, mais là, en disant ce que tu dis, c'est-à-dire que si l'OM veut le contacter, en disant ce que tu dis, en disant que tu as les preuves, ça veut dire qu'il peut plus aller entraîner l'OM aujourd'hui.
Mais pourquoi?
Ça veut dire qu'il a craché sur l'OM à un moment donné. Ça veut dire ce que tu viens de dire. Comment non? Mais bah alors toi, donc si j'ai bien compris, tu fais comme nos amis là, qui l'ont accusé de racisme, qui l'ont accusé de racisme en disant, mais nous on fait que relater les trucs. Mmh. Et puis on va évoluer dans le débat, on va élever le débat et tout. Sauf que quand tu es accusé de racisme de nos jours, eh bien tiens une protection rapprocher. Mmh. Donc toi, en disant ce que tu as dit, tu te rends pas compte que ça veut dire qu'il a craché sur l'OM, ça veut dire.
Non,
toi, Jérôme Roten, dans une émission de Grande Écoute, tu dis il a craché sur l'OM. Et c'est pas une preuve ce qu'on te dit.
Ah bah
voilà. Et pour revenir au débat du jour, donc tu continues à me couper. Donc
on a dit tu m'accuses de mentir en fait.
Toi, tu l'accuses de mentir lui.
Je peux t'accuser de mentir, toi, face de toi, quand même. Et toi, quand tu l'as accusé de mentir, je t'ai pas coupé, je t'ai laissé parler, quand même.
Comment tu m'accuses, moi, alors que moi, ma version, c'est celle-là. Et à moi et à d'autres, il l'a fait. Et encore, quand je te dis qu'il a pas trompé les Marseillais, il a trompé les Parisiens. C'était pour s'acheter une petite conduite en disant, vous savez, moi, je suis né à Marseille, j'ai joué à Marseille, j'ai même été entraîneur adjoint de l'OM, mais je peux très bien entraîner le Paris Saint-Germain parce que moi, l'OM, je n'ai pas plus que ça dans le cœur. Bah, excuse-moi, j'ai l'impression que oui, en effet, moi et tous les Parisiens,
j'espère que tu as les preuves.
Parce qu'il a l'OM dans le cœur.
J'espère que tu as les preuves.
Mais les preuves de quoi? Les preuves,
qui t'a dit ça? J'espère que tu as les preuves. C'est grave. Moi, je trouve que ce que tu dis est grave.
Voilà,
c'est plus du football. Mais non, mais je voulais aborder l'aspect du procès en réalité quand même. Le procès, c'est quand il dit ça, et notamment sur le fait qu'on l'a contacté, qu'il a dit, ben, moi je trouve que c'est normal quand tu vas passer au tribunal en décembre de ne pas mettre le club qui va te recevoir dans l'embarras parce qu'il va y avoir un procès. Le procès, tu sais pas comment il va tourner. Alors lui, il savait comment il allait tourner parce qu'il sait ce qu'il a fait. Mais malgré tout, les dirigeants, c'est pareil. Tu peux pas être une girouette. Moi, je croyais que c'était ça le procès sur ce qu'il a dit à l'OM au moment où il pouvait les prendre en disant, moi, c'est pas le moment. Voilà. Donc,
si c'était pour, c'est si normal. C'était pour.
Ah ben non, mais moi, expliquez-moi alors. Parce que si c'était pour régler les problèmes du PSG, expliquez-moi.
Mais c'est régler quel problème du PSG? C'est pas le problème.
Puisque tu es revenu il y a deux ans, tu es revenu.
Je dis juste que son passage était une anomalie au Paris Saint-Germain. Voilà, c'est tout.
Mais par rapport à son discours. C'est pas le procès du jour.
Pour moi, parce que le procès du jour, c'est que quand tu entraînes, pour moi, le Paris Saint-Germain, tu sais ce que ça comporte, d'accord? Et quand tu décides d'entraîner le PSG, il faut avoir un minimum de respect pour ce que les gens ici à Paris pensent d'un entraîneur, de leur entraîneur. Et je pense qu'en effet, il a trompé beaucoup, beaucoup de personnes. C'est tout. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, très bien qu'il aille entraîner l'OM.
S'il a envie de faire à Marseille qu'à Paris, c'est ça que tu veux dire,
mais
Jérôme.
À l'arrivée où il nous a trompé.
Que tu dises qui est truc, mais tu ne dis pas ce que tu dis, parce que même si on t'a dit, il faut des preuves quand on accuse comme ça. Quand même, tu
te
tiens de dire qu'il a renié sa ville et son club, là où il a été formé, là où il était entraîneur. Tu entends de dire ça?
Non, il dit qu'il a plus joué un rôle quand il était à Paris.
Et sans se rendre compte des conséquences qu'il peut y avoir derrière.
Tu fais ce qu'ont fait les autres il y a quelques mois.
Mais c'est la vérité! C'est la vérité!
Duga tranche l'affaire entre les deux.
Ah, c'est compliqué parce que personne a répondu au débat. C'est compliqué, mais moi, il y a une phrase qui me dérange sur ce que dit Jérôme. Après, je peux comprendre aussi Jérôme ce qu'il ressent. Dès le départ, il était contre de toute façon que Galtier et le Paris Saint-Germain. Mais c'était pas le débat. Quand Jérôme dit Galtier est responsable, on a l'impression que quand Jérôme parle de Galtier, ça veut dire qu'il est responsable de l'ambiance délétère qu'il y a eu au Paris Saint-Germain. Et ça, tu peux trouver que Galtier, il s'est planté. C'est pas un bon entraîneur. Tu peux lui trouver tous les défauts du monde. Mais l'accuser d'être responsable de l'ambiance délétère au Paris Saint-Germain, je trouve que là, c'est un peu fort. Après, moi, je trouve que Galtier, il a fait des erreurs. Ça, c'est certain.
Parler de foot, il n'y a pas de souci.
Ça, c'est un autre débat. Voilà. Après, dire qui a raison, qui a tort, aucun des deux n'a répondu véritablement à la question. Donc, girouette de quoi, des entraîneurs qui changent de club, c'est leur métier. Donc que dire d'autre? Après, un reproche de pas avoir été honnête et l'autre dit qu'il est 100% net. Ouais, sauf que c'est pas le débat. Donc écoute, je renverrai mes copains dos à dos pour cette soirée.
Non, mais l'erreur fondamentale, c'est d'être venu à Paris.
Mais oui, exactement.
En fait, sinon on n'aurait pas.
Pourquoi c'est une erreur?
Et le terme et le parce que Eric et Duga, vous le savez très bien, avec la rivalité qu'il y a, moi je pars du principe, et il y a des joueurs qui l'ont fait et des entraîneurs aussi. Beaucoup des entraîneurs, mais il y en a qui ont entraîné les deux clubs. Mais je suis désolé, c'est que tu sais que quand tu signes dans un club, faire l'inverse derrière, pour moi, c'est quasiment impossible. Parce que pour te faire adopter, que ça soit à Marseille ou à Paris, t'es obligé de mettre en place d'avoir un certain discours, ce qu'il a eu. Alors
t'es une espèce de posture, exactement.
Et moi ça me dérange. Entre ces deux clubs là, je te parle pas. Le monde du foot est comme ça. Mais entre ces deux clubs là, j'ai le droit de dire que en effet, il m'a trompé, il nous a trompé ici à Paris.
Il y a eu d'excellents joueurs qui sont passés de Paris à Marseille ou de Marseille à Paris et qui ont fait le taf aussi. Ça a très bien fonctionné aussi.
Pas beaucoup.
Les deux.
ils ont marqué soit l'histoire du gars ou l'histoire de l'autre. Mais l'histoire des deux, franchement, j'ai pas le souvenir.
Et né dans l'une des deux villes en plus.
En plus.
Oui, Eric, tu voulais dire un dernier mot?
Non, mais probablement, depuis qu'il est arrivé au club, vous l'avez flingué et vous continuez à le flinguer un an après. Bon. En l'accusant de tous les maux, voire même de la mauvaise ambiance. Là, mais il faut être culotté quand même.
Là, à un moment donné. C'était lui qui était responsable de la mauvaise ambiance. Il fait partie des responsables.
À un moment donné, moi, je veux bien, et je comprends que vous n'ayez pas digéré le fait qu'il signe chez vous. Vous l'avez critiqué sportivement. Alors, vous avez attendu quand même le mois de février pour le critiquer sportivement, parce qu'avant, c'était difficile.
Sauf que
là, ce que tu dis ce soir, mais tu te rends pas compte, mais c'est grave.
Allez,
gravissime. Gravissime. Non, mais c'est pas rigolo, Jérôme. C'est pas rigolo. Parce que vous rendez pas compte quand vous faites ça, des répercussions derrière que ça peut avoir. Mais surtout que vous le faites sans preuve. Vous le faites sans preuve. Parce que tu n'es pas à l'abri qu'il y ait Fada à Marseille, qui, si jamais signe à l'OM, la Grèce, par exemple. Parce que, un jour, un mec qui a dit à la radio qu'il avait chié sur l'OM quand il était à Paris, par exemple. Voilà. Par exemple, tu sais quand même qu'il y a des mecs qui ont failli, quand il est venu au stade Vélodrome, ça a mal tourné avec certains supporters derrière le banc quand même. Et tu l'as vu cette image-là quand même. Voilà, donc toi tu mets de l'huile sur le feu. Donc,
Non, mais
dire ce qu'on passe quand on parle de football, mais là, c'est des accusations graves où il faut des preuves. C'est tout.
J'aurais dû l'enregistrer.
Sinon, moi je peux raconter n'importe quoi sur toi.
Eh ben tu peux. Bah, si t'as envie, voilà, et je me défendrai.
RMC, jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
18h47 sur RMC, on est toujours là dans Rotten sans flamme. On finit la première heure avec le moment de Julien Cazard et son Cazard enchaîné. On est en mode Ligue des Champions, on est en mode Europa League, oui, demi-finale de Coupe d'Europe cette semaine. On en parle, bien sûr, avec Christophe Dugarry, avec Eric Dimeco et avec Jean-Louis Tour. Et Jean-Louis, après 19h, on va parler encore du Paris Saint-Germain, de Kylian Mbappé.
Exactement. Certains supporters du PSG manquent-ils de reconnaissance envers Mbappé, ou comprenez-vous certaines critiques? 32-16, appelez-nous pour participer au débat après 19h. Mais là, on va se détendre, on en a besoin.
RMC Rotten sans flamme.
Le Cazard enchaîné.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 6 mai 2024 et le Paris Saint-Germain n'est toujours pas éliminé de la Ligue des Champions.
Attends, c'est quoi cette odeur, Julien, là?
Quelle odeur, je vois pas de quoi tu parles.
L'ambiance d'avant PSG Dortmund vous est offerte par Papy Fayot. Papy Fayot. Ça gaze à la tribune.
On est un petit peu dérangé, mais ça va passer. Toi bien. Super confiant, je vois pas où est le problème. Même si Dortmund reste une des franchises fortes de la galaxie OM, tu sais ça, Jean-Louis.
Faut savoir, tu m'avais dit le Bayern.
Alors oui, pardon. À la base, c'est le Bayern, mais tu le sais, Jérôme, depuis 8 jours, la holding OM a fait une OPA sur le BVB. Il fait maintenant partie de la galaxie. Ce qui est compliqué, c'est que d'après l'UEFA, on a parlé d'avoir 2 clubs dans le même pays. Tu sais, alors donc ils vont devoir se débarrasser des parts du Bayern, quitte à reprendre des actions bavaroises en cas de qualification du PSG et du club unico en finale.
C'est pas simple.
Non, mais attendez, c'est pareil. Si jamais c'est le Real qui est en finale, le groupe Galaxy OM devra vendre au moins 51% de ses parts branches Barça à cause de la loi antitrust. Mais ils peuvent pas trop communiquer dessus parce que sinon il y a les délits d'initié. Et ne parlons pas de l'éventualité où l'OM gagnerait l'Europa League. Alors là, il serait reversé en Ligue des Champions. Avec comme problématique de se retrouver dans la poule l'année prochaine avec plusieurs sociétés partenaires telles que City, le Real, le Barça, le Bayern, la Real Sociedad. Et là, c'est bien compliqué.
La Real Sociedad aussi ?
Oui, parce qu'une récente opération boursière en début d'année, je ne sais pas si tu te souviens, dans le cadre d'une fusion-acquisition, avait pour but de concentrer horizontalement, permettant une plus grande pénétration de la holding OM sur le marché européen avec la Real Sociedad. Franchement, j'admire les supporters d'OM qui s'y retrouvent parce que moi, franchement, si t'es pas Pythagore, Archimède ou Manu Le Chibre, c'est incompréhensible ce truc.
Mais gros, y a rien à comprendre, mais c'est juste pour l'équipe qui joue contre les Qataris du Parc des Putes, bon. Pas compliqué, suce toi.
Oui, ah dit oui, comme ça, c'est beaucoup plus simple. Allez, sommaire. Mais non, mais sinon, c'est trop compliqué à gérer. Tu es contre, c'est tout.
On est là-bas haut, là, entre les insultes et les proutes au début.
Oh, ben viens, oh, c'est chaud, de partout. Dans cette édition, nous aborderons cette semaine cruciale pour le foot français, une semaine qui pourrait entrer dans l'histoire de la Coupe d'Europe. Si 2 clubs de l'Hexagone se trouvent en finale de deux Coupes d'Europe, on n'a pas vu ça depuis quand, Jérôme, à ton avis?
Il nous l'a dit tout à l'heure.
Depuis 20 ans, je crois.
Depuis 2004. Ah, oui. Putain, en été. Belle performance avec à la clé 2-0 et 3-0. Merci, au revoir. 2 finales perdues. Mais cette année, c'est différent parce qu'on a nos porte-bonheur. Dont Habib Bey. Habib Bey qui est là. Alors, même s'ils ont tendance à en faire un peu trop. Moi, je trouve qu'ils en font trop. Et c'est pour ça que j'aurais préféré la sobriété des gens de Prime Video. Tu vois pas qu'ils sont plus sobres après une vidéo? Ouais. Ah bah si. Bah là, excuse-moi, c'est quand même des gens qui savent se tenir. Comme lors du match de Montpellier ce week-end. Bon, un but de Savanier qui était pas mal. Bon voilà, on a quand même un peu de mesure.
Plus rapide, Efti, encore, Efti, toujours, quelle sortie de balle, 4 contre 3, oui, joue le coup, sur le côté gauche avec Christian Gassila, le ballon toujours en jeu, le centre, la reprise, oh, la reprise, oh, le génie, oh, l'extérieur du pied, oh, la lucarne, monsieur, TJ, Savanier.
Je pense que c'est le plus beau but que j'ai vu en direct de ma vie.
Bon, c'est beau. C'est le plus beau but que j'ai vu en direct de ma vie.
T'as pas vu beaucoup.
Une reprise de volée de Savanier. Je vais pas dire son nom parce que.
Le commentaire de Smiley est excellent.
Ouais, excellent. Bah, lui, il reste dans la mesure à peu près. Mais alors, je sais pas ce qu'il regarde dans la vie comme match de foot en général. C'est vrai que s'il regarde que des matchs de Montpellier, Nantes, Lorient. C'est le plus beau but. Je sais pas imaginer, c'était Del Castillo qui avait marqué. Alors là, on se collait un pétard mammouth et on part sur la lune. Demain, pour le PSG, va pas falloir se poser de questions. Il faut gagner point final et ne pas essayer de faire des calculs. Il faut prendre les 3 points, mais... comme pour l'OM à Bergame. C'est les 3 points qui comptent.
Des matchs retour, je viens. Il n'y a pas de points.
Comment ça, il n'y a pas de points? Même à Bergame?
Ouais, même à Bergame.
Attends, ah, ça me paraît pas clair ton histoire. Moi, je fais confiance à Johan Crochet. Lui, on écoute parce que je suis pas sûr.
Qu'est-ce qu'on en dit en Italie? Bizarrement, beaucoup de confiance dans la presse italienne qui a plutôt apprécié la performance à Marseille. Assez confiant du point du match nul ramené. Alors,
quand t'as pas l'habitude de sortir des poules, pourtant normalement ça va les clubs italiens. Il y aura pas de point du match nul demain. De toute façon, on le sait, Luis Enrique l'a dit 3 fois. Souvenez-vous.
Es la única frase que sé en francés. On va a gagner. Solo sé esa frase. Y como me gusta, on va a gagner. Bien sûr. Bien sûr, mejor dicho. No, on va a gagner, sûr.
On va a gagner. On va a gagner. On va a gagner. On va a gagner ou pas?
On va a gagner.
On va a gagner. On va a gagner. On va tout droit vers une finale PSG Real. Hein. Tout le monde en rêve. De toute façon, c'est.
Ah. Pardon, Vicarim de ça par une bande de footiques prépubères et puissants qui tripotent devant les posters de Starlet. Alors que tout le monde sait que la finale, ce sera Bayern défendé. Ouais. Comme en 2013, et ça vous fera bien claquer vos manches merde de blanc mec boutonneux qui boivent de l'IPI en écoutant Oasis ou U2. Ce rock de Baltring pour fête foraine.
Merci, Polo. Polo qui est très confiant. C'est que Polo, il est très confiant.
Oui.
Et pas que pour le foot.
Ah, bon,
il est... ah oui, non. Il est très confiant pour le Bayern et pour le Borussia, mais aussi dans la vie en général. C'est... Un moment de confiance de Polo?
Oui.
On écoute ça.
L'Oréal, Polo, champion d'Espagne. On a parlé de Gérone tout
moi,
à l'heure.
Moi, c'est Fred,
mais. Fred. Oui, mais il y a quelque chose, vous ressemblez, c'est pour ça. Mmh.
Mais Polo, oui, on a beaucoup de cheveux, on est vieux, et nos deux clubs se rencontrent mercredi, c'est ça.
Je suis vieux, moi j'ai encore du succès avec la jante féminine. Et c'est pas fini, je suis bientôt de retour sur le marché, planquez vos femmes et vos filles, planquez vos femmes et vos filles, filles.
C'est l'angoisse.
Putain, moi ça me fait. Moi quand je l'entends à chaque fois me dire, j'ai du succès avec les petites, avec la jante féminine, tu te dis, putain, j'aimerais pas l'avoir comme babysitter. Bon, on va essayer d'oublier cette vision, ce qu'on a tous vu là. On l'a tous vu, on l'a dans la tête.
C'est horrible.
C'est affreux. C'est affreux.
Et si on fait des trucs de retour sur le marché, ils sont où les condesses?
J'espère que le CSE d'RMC ne nous écoute pas. Je voudrais quand même finir par rendre. Vous savez que le factorise des demi-finales, on le sait, c'est l'arbitrage qui peut tout faire basculer. Oui. Ah. C'est pourquoi, pour la chanson du lundi, j'ai voulu rendre hommage à nos arbitres. Mais quel est le meilleur chanteur pour parler des arbitres? Le mec qui le représente le mieux?
Gilbert Montagnier.
Merci.
Monsieur Gastron, ça va?
J'ai une petite gêne derrière la cuisse. Je préfère m'arrêter là.
Le foot et moi, c'était pas gagné. Déjà petit, à toutes les récrés, on me choisissait toujours en dernier. J'allais au cage ou sur un côté. Au club, j'étais le cireur de banc. Pas bon derrière, très mauvais devant, mais j'ai trouvé mon poste maintenant. Je vais siffler et je mets tout mon cœur pour arbitrer. Des ados millionnaires pour y gâter, qui savent parfois pas faire une passe à 3 mètres dans les pieds. Je vais siffler, même si c'est chiant la Ligue 1 cette année. Sans Verratti pour venir contester. Petit hibou, tu nous manques Marco, mais Mariolo.
Hein, quoi, n'importe quoi. Oh, oh,
oh, oh, oh, oh, il y a deux choses que je comprends pas bien. Les femmes, bien sûr, ou quand siffler main décollée, ou involontaire avec Kimpembe. Au moins c'était clair, quoi que je siffle, je me fais foudroyer. On me juge tous les soirs sur RMC, on me compare à Gilbert Montagné. Je vais siffler en mode shérif, Turpin et Le Texier, au plus relax à la rue du Buquet. À la barre on aime bien frappe armée, elle l'appelle jamais. Je vais siffler pas comme Neymar, les vodka Malibu. Quoi qu'un petit jaune, ça c'est jamais de refus. Et si tu contextes direct au vestiaire, et pam pam cul cul et cul nu, je vais siffler. La prochaine fois que Benatia vient râler, à la mi-temps je lui défonce le nez. Comme chaperon je tacle par derrière, je sais faire des croche-pieds. Je vais siffler de Nantes à Nice, de Lens à Montpellier. Pénon Fourlion, rouge à Francis Leblay. Laisse tomber la VAR, moi je sais même pas quand on peut l'appeler. Je vais siffler.
Une pensée pour ceux qui seront les responsables de l'élimination des deux prochains clubs. Allez, à tout à l'heure.
Merci Julien.
RMC, le Casar enchaîné.
Réécoutez Julien Casar en podcast sur rmc.fr et l'appli RMC.
Et à tout à l'heure pour le quiz à 19h45. En plus, un super cadeau à gagner. Je vous explique tout à l'heure, mais si vous aimez les vacances, c'est très sympa. Le quiz tout à l'heure, 19h45. Et dans une seconde, notre spécial PSG Dortmund continue. Certains supporters manquent-ils de reconnaissance envers Kylian Mbappé, 32-16, pour débattre. Et vous entendrez Luis Enrique lorsqu'il a été interrogé aujourd'hui sur Kylian Mbappé. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.